Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et cette question ce soir dans votre émission, la gauche française en péril peut-elle s'unir pour la présidentielle de 2022? Nous en débattrons avec nos invités. Mais d'abord, direction le Mali.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Docteur Étienne Famako Sissoko, bonjour.
Bonjour.
Enseignant à l'Université de Bamako et chercheur au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale, CRAPES au Mali. Le délai d'un mois donné par le groupe djihadiste de la Katiba Massina à l'État malien pour se retirer de Farabougou dans la région de Ségou au Mali expire ce 15 avril. Quelle que soit la décision de Bamako, les autorités et l'armée malienne ne sont-elles pas déjà de fait dans une position défensive?
En réalité, il n'y a pas de doute par rapport à cette décision et tout cela était prévisible parce que déjà la nature de l'accord qui avait permis une accalmie dans cette localité du Mali était un accord ni écrit ni garanti par un quelconque témoin que ce soit. Donc c'était un accord fragile. C'était simplement dans un premier temps pour permettre aux populations de vaquer simplement à leurs occupations. Il n'était nullement question de prévoir un retour de l'administration, encore moins un retour de l'armée dans ces localités de façon durable ou de façon définitive.
On parle bien de l'accord de Nioro négocié par le Haut Conseil islamique mandaté par le gouvernement malien.
C'est cela. Donc aujourd'hui, même mandaté par le gouvernement malien, ça reste à approuver. C'est une initiative propre d'abord de cette organisation qui, dans son rôle de médiation et d'intermédiation, a pris l'initiative d'entamer des négociations avec ceux qui contrôlaient cette localité depuis plusieurs mois maintenant. Donc aujourd'hui, la position claire du gouvernement par rapport à tous ces accords locaux qui sont en train d'être signés entre les différentes communautés et les groupes djihadistes n'est pas assez clair. On ne sait pas si le gouvernement soutient ces accords-là ou si le gouvernement simplement n'est que finalement un observateur de tout ce qui se passe. Donc oui, le gouvernement est piégé et les perspectives ne sont malheureusement pas reluisantes.
Le gouvernement est piégé peut-être parce que dépassé par la situation?
En réalité, c'est que les enjeux sont tellement énormes. Parce que comme vous le savez, la crise était déjà au nord du pays depuis 2012 et c'est plus tard que ça s'est étendu vers les années 2015 aux régions du centre. Donc aujourd'hui, on a plus de la moitié, sinon plus des deux tiers du territoire qui échappe totalement au contrôle de l'État, où l'administration n'est pas présente, où les forces armées de sécurité ne sont pas présentes, dans certaines localités où les populations ne peuvent même pas aller à leurs occupations les plus simples, comme aller cultiver leurs champs, comme aller au marché ou comme faire des activités de loisirs. Donc c'est pourquoi je pense aujourd'hui que, au-delà des slogans que nous entendons jour et nuit, qu'il est important aujourd'hui de faire recours à tout ce qui a été dit lors des grandes rencontres que le pays a connues depuis maintenant quelques années. Toutes ces concertations ont demandé à l'État de négocier avec les djihadistes. Maintenant, quoi négocier, comment négocier et quelle chose mettre concrètement dans le contenu des différents accords qui seront signés, c'est ce qu'il faudra discuter. Donc, il est de la responsabilité de l'État d'initier et de conduire des négociations, si négociations il doit y avoir.
Quelle doit être, selon vous, l'attitude des autorités maliennes face à la demande de la Katiba Massina à l'armée malienne de quitter le village de Farabougou?
Il est important d'abord de se dire qu'un État souverain ne doit pas se soumettre au diktat des groupes terroristes. Cela doit être un principe pour l'État malien. Tout en favorisant un climat de dialogue, l'État doit rester ferme sur un certain nombre de principes.
Fixer ce point comme non négociable pour les futures négociations?
La défense, par exemple, des populations, la défense de la souveraineté nationale, la question de la laïcité, de l'unicité de l'État doivent être des principes non négociables et des lignes rouges que les groupes terroristes, les groupes djihadistes ne doivent pas franchir.
Subir un ultimatum de groupes armés ne risque-t-il pas d'inspirer d'autres groupes qui sévissent au Mali et même dans le Sahel?
Absolument. Aujourd'hui, quand vous regardez tout ce qui se passe dans le pays, c'est cela l'enjeu. C'est de faire en sorte que la criminalité, les groupes djihadistes qui sont en train de prendre du terrain, que cet effet-là puisse retomber. Voici tout l'enjeu aujourd'hui au nord et au centre de notre pays. Mais malheureusement, ce que l'on voit, ce n'est pas véritablement une prise en main de l'ensemble du processus. Vous avez suivi avec moi ces quelques jours l'assassinat d'un haut responsable de la CMA en plein cœur de Bamako.
Vous évoquez à l'instant l'assassinat du patron de la CMA, la coordination du mouvement de la Zawad, Sidi Brahimi Ould Sidati à Bamako. Un suspect a été interpellé. Cet assassinat peut-il compromettre l'accord de paix d'Alger et même le processus de paix en cours au Mali?
Tout dépendra en réalité des enquêtes pour clarifier justement les conditions de cet assassinat-là. C'est cela qui va déterminer l'impact sur le processus. Ce n'est pas la première fois que décède un haut responsable de cette organisation de la CMA. Et on se rappelle de celui de Jerry Maïga il y a quelques années. Mais tout cela, de mon point de vue, n'aura pas un grand impact sur le processus de façon générale.
Docteur Étienne Famako Sissoko, merci beaucoup.
Merci à vous.
Enseignant à l'Université de Bamako et chercheur au Centre de recherche et d'analyse politique, économique et sociale, CRAPES, au Mali.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Depuis quelques années, la gauche française est en difficulté. Peut-elle s'unir dans la perspective de la présidentielle prévue dans un an? Nous en débattons ce soir avec quatre invités. Éric Coquerel, qui est député de la France Insoumise. Monsieur Coquerel, vous m'entendez? Pas encore, me dit-on. Jean-Yves Camus, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Abel Mbouy, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, président de la plateforme citoyenne Force Républicaine Tous Unis, plateforme citoyenne apolitique. Et nous avons enfin le politologue Frédéric Sinclair. Monsieur Sinclair, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, messieurs. On me fascine, monsieur Coquerel, manifestement nous entend à présent. Monsieur Coquerel, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue, député donc de la France Insoumise. Je souhaite commencer avec vous. On parle beaucoup de cette union, cette unité de la gauche, beaucoup de déclarations de bonnes intentions de la part des responsables et membres de la gauche. Est-ce qu'au niveau de la France Insoumise, vous y travaillez aussi activement?
Nous, on travaille à essayer de rendre majoritaire dans ce pays. Et donc, ça passe par le fait de gagner les élections. Le programme qu'on estime être nécessaire au pays et qu'on estime aussi être en capacité d'aller au deuxième tour et de remporter ces élections, c'est-à-dire un programme de rupture avec le néolibéralisme, le productivisme, qui passe par la 6e République, qui passe par la planification écologique, qui passe par le partage des richesses, le partage du temps de travail, qui passe par la rupture avec les traités européens. Voilà, c'est un programme, on le connaît, c'est l'avenir en commun que Jean-Luc Mélenchon a représenté en 2017 avec le succès que l'on sait. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment on peut être le plus possible derrière ce programme et donc derrière la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Et on pense qu'on peut rassembler très largement.
Pour vous, le rassemblement de la gauche signifie donc s'unir autour de Mélenchon? Il n'y a pas une autre alternative, d'après vous?
Je n'ai pas dit ça comme ça. J'ai pas Jean-Luc Mélenchon. C'est une
quand vous convoquez les élections de 2017, on sait parfaitement quel était le score de Benoît Hamon du Parti Socialiste et le vôtre aussi. Donc, si vous le dites, cela signifie que vous pensez que si on parle unité de la gauche, c'est forcément derrière Jean-Luc Mélenchon et pas autre chose.
J'observe déjà deux choses. Donc, je recommence. C'est que c'est pas seulement derrière Jean-Luc Mélenchon, c'est derrière le programme qu'il porte. Vous savez. Jean-Luc Mélenchon, il a toujours dit, ne votez pas pour Jean-Luc Mélenchon, vous votez pour le programme qu'il porte, qui sera notre programme de gouvernement, si demain nous dirigeons le pays. Et aussi, d'après l'élection de 2017, mais aussi les différents sondages qui, de ce point de vue-là, sont de manière répétitive de la même chose, celui qui paraît être le mieux placé, on va dire, du camp progressiste. La question qui se pose à la gauche, c'est pas simplement l'unité pour l'unité, c'est le rassemblement derrière quoi Nous, on a toujours dit que si c'était un rassemblement derrière quelque chose qui ressemble à ce qu'a fait François Hollande pendant 5 ans, que ce soit repeint plus ou moins en vert, c'est pas quelque chose qui sera de nature à changer les choses et à gagner et à rassembler notamment tous ceux de nos concitoyens qui, pour le moment, ne votent pas, mais s'abstiennent. Alors qu'à l'inverse, on pense que c'est sur un problème de rupture que ça peut l'être. Et on peut, de ce point de vue-là, que ce soit pour les présidentielles et législatives, être encore beaucoup plus nombreux que nous sommes aujourd'hui, et pas seulement, j'allais dire, la force de France Insoumise.
Merci. Jean-Yves Camus, comment réagissez-vous à ces premières déclarations de M. Coquerel ? Est-ce que ça va dans le sens de votre vision de cette unité que souhaitent les responsables et autres acteurs de la gauche ?
Moi, vous savez, ma vision, c'est celle d'un observateur extérieur. Ce n'est pas celle de quelqu'un qui est engagé en politique derrière.
Vous êtes quand même directeur de la Fondation Jean Jaurès. On connaît son histoire avec le Parti Socialiste.
On connaît son histoire. Mmh. On connaît aussi son attachement à la social-démocratie. Ceci étant, il y a à l'intérieur de la Fondation un certain nombre de gens qui sont favorables à tel ou tel candidat, à tel ou tel autre candidat. Puis je voudrais quand même insister sur quelque chose, c'est que pour l'instant, on n'a pas le casting. C'est-à-dire qu'on a cette attitude des institutions neuves qui donne quand même un petit peu à réfléchir et qui consiste à tester des configurations dont on n'est absolument pas certain, puisqu'il y a des candidats déclarés, Jean-Luc Mélenchon en fait partie, puis il y a des candidats pas déclarés. Et il y a même de temps en temps des sondeurs qui sont un petit peu joueurs et qui viennent tester, à mon avis pour la plus grande confusion des citoyens d'ailleurs, des hypothèses, bon, qui sont quand même des hypothèses, on va dire, pour l'instant, extrêmement peu plausibles. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est de regarder dans les sondages que nous avons actuellement en main, à combien est le seuil d'accès au second tour, au minimum 25%, aux alentours de 25%, et à combien on arrive quand on additionne l'ensemble des candidatures qu'on peut qualifier, je reprends le qualificatif qu'utilisait Éric Coquerel, de progressistes. Eh bien, selon les sondages, on arrive à, des fois, pas très loin derrière. Autrement dit, on a un match qui est installé par la plupart des instituts de sondage et par les deux protagonistes eux-mêmes, qui est le match Emmanuel Macron-Marine Le Pen, mais ce match, il est loin d'être écrit. Il est loin d'être écrit si jamais il y a effectivement une dynamique qui se crée dans le camp, encore une fois, progressiste, dans le camp de la gauche, de la manière la plus large possible. Et je crois que ça fait aussi partie des choses qui sont un petit peu malsaines dans le début du débat, d'essayer d'installer un match qui, au fond, satisfait parfaitement les deux protagonistes qui en seraient de ce second tour, mais qui ne satisfait pas nécessairement les Français.
Voilà, c'est vrai, hein, ce sont encore des sondages qui prévoient aucun membre de la gauche au second tour. Abel Mouyi, je sais que votre organisation, vous dites c'est citoyen, mais vous êtes plus proche de la droite. Comment voyez-vous ce débat sur l'unité que souhaite la gauche française dans la perspective de cette élection ? Et ensuite, M. Sinclair fera une synthèse de tout ce qui a été dit.
Alors, juste petite correction, l'organisation est vraiment totalement apolitique, hein, donc nous appelons tous unis. Maintenant, par rapport à ma vision de la situation, votre émission tombe très bien parce que c'est vrai qu'il y a un énième sondage qui est sorti cet après-midi de la part du cabinet Odoxa Backbone Consulting, qui dit que pour plus de 80% des Français, la situation de la gauche est mauvaise à un an de l'élection et qu'une majorité des électeurs socialistes, écologiques et insoumis souhaitent un candidat commun. Donc c'est vrai que beaucoup de choses ont été dites et je vais aller dans le même sens de ce qui vient d'être dit. Le défi pour la gauche ou pour les différentes influences de la gauche, c'est de trouver un candidat idéal qui serait rassembleur, capable d'incarner tous ces courants devant l'urgence écologique et sociale qui se présente face à nous. En deuxième, il y a vraiment la prise en compte du chamboulement du paysage politique qui s'est concrétisé en 2017, mais qui a été amorcé bien avant en réalité. Chamboulement qui inclut le fait que le premier parti de la France, à savoir l'abstention, va probablement gagner encore un nombre non négligeable d'adhérents d'ici un an. Et le fait que Macron, de par le fait qu'il a siphonné des voix un petit peu partout, il conserve malgré toutes les critiques qu'il y a par rapport à la gestion de la crise sanitaire, un socle électoral relativement solide. Et ensuite, il faut vraiment l'édition d'une ligne claire où toutes les gauches peuvent se retrouver. Le but, c'est d'initier un vote d'adhésion pour le programme de la gauche et non pas un vote de dépit. C'est-à-dire que l'électeur ou l'électrice intéressée doit voter pour la gauche, pour son programme et non contre Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, ce qui aurait un résultat catastrophique in fine. Et il est vrai que ce que l'on peut remarquer, c'est qu'aujourd'hui, par rapport aux années précédentes, on peut remarquer que le rassemblement de la gauche ne signifie plus tous derrière le Parti Socialiste. Et le danger de cela, donc c'est à la fois une bonne chose, mais le danger, c'est qu'une guerre d'ego peut naître et la même guerre qui a fait tant de mal à la droite peut continuer de faire tant de mal à la gauche.
Merci. Merci. Alors, Frédéric Sinclair, par quel bout faut-il poser cette problématique de la candidature unique quand on a écouté tout à l'heure M. Coquerel dire que cette candidature unique doit se construire autour de Jean-Luc Mélenchon. Finalement, on a l'impression que ce n'est pas une démarche facile, même s'il y a une vraie soif de militants et aussi de certains responsables d'aller vers l'unité.
Il y a effectivement, comme vous le dites, il y a une soif d'unité et finalement, pour le coup, les sondages montrent, comme l'a précisé Jean-Yves Camus, que si cette unité était réalisée, la gauche pourrait espérer revenir dans le jeu électoral en 2022. Les questions qui se posent, à mon avis, sont de divers ordres. La première, elle a été largement mentionnée, c'est la question des personnalités. Il faut de toute façon porter une voix unique et il faut quelqu'un pour la porter. Donc même si cette personne-là porte la voix d'un programme, et je pense que c'est une remarque qu'a fait Éric Coquerel et qui est une remarque importante, c'est-à-dire que autant à droite, on a tendance à chercher l'homme charismatique, autant à gauche, il ne faut pas oublier l'importance de la place du peuple dans la réflexion politique et donc de la démocratie et de la participation à la construction d'un programme commun. Donc il y aura quelqu'un pour porter ce programme, mais au-delà de la question de la personnalité qui ne va pas être simple à trancher, il y a aussi la question du programme commun. Et là, ça pose la question des partis finalement. Quel socle partisan et quelle capacité de chacun des partis à mettre en commun un certain nombre d'idées sur lesquelles s'accorder. De loin, ça peut sembler plutôt facile. Quand on va regarder dans le détail, on va se rendre compte qu'il peut y avoir des fractures. Ensuite, la troisième chose, c'est quel peuple ? À quel peuple parle-t-on ? Et là, la question, à mon avis, est fondamentale parce qu'aujourd'hui, une des problématiques principales de la gauche, c'est que le peuple de gauche serait devenu introuvable. Il serait à ce point morcelé, plus encore que les partis politiques, il serait à ce point morcelé, indécis, voire parfois désabusé, que retrouver un peuple à qui parler, c'est à mon avis pas une petite affaire.
Merci. Alors Éric Coquerel, pour vous, toute discussion pour l'unité de la gauche doit-elle passer par le choix de Jean-Luc Mélenchon comme candidat de la gauche ? Est-ce que c'est un préalable pour vous ?
Non, ce qui est un préalable pour nous, c'est nous pensons que, en gros, ce qui s'est passé depuis 2017, qui est une première dans l'histoire de la gauche, au moins depuis des décennies, c'est que, on va dire, la gauche de rupture, voilà, avec le système néolibéral, etc., est passée très largement devant la gauche d'accommodement, voilà, qui était incarnée par le Parti Socialiste de François Hollande. Ça n'a pas toujours été le Parti Socialiste, mais le point d'arrivée, c'est le Parti Socialiste de François Hollande. Et ça, à partir de là, ça change considérablement la donne. Et la deuxième chose, c'est que vous parliez de rassemblement. Nous, notre intuition, c'est que la capacité à rassembler ce que vous appelez le peuple de gauche, mais aussi, il faut voir plus loin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont, dans la population, dans le peuple, un intérêt électoral à voter pour ceux qui proposent justement une plus grande égalité fiscale, une justice sociale, une démocratie plus importante. On l'a vu à travers le mouvement des Gilets jaunes, il y a un vrai besoin de ça. Ces gens-là, ils du fait justement des années Hollande et autres, ne se revendiquent plus forcément de manière latérale gauche-droite. Donc il faut une candidature qui porte un programme, qui soit capable de parler à ces,
on va dire, ces deux électorats, enfin, qui, la frontière n'est pas aussi évidente que ça, et qui, du coup, soient capables de propulser un candidat progressiste au deuxième tour. Voilà. Et donc, c'est pour ça que, si vous voulez, la question n'est pas de vouloir accepter que ce soit un autre candidat ou pas. Il se trouve que le camp de la rupture, que nous incarnons quand même très majoritairement, alors je sais que Fabien Roussel entend aussi se présenter, mais enfin, globalement, si on regarde les sondages, on peut dire qu'on le représente très largement. On estime qu'on a le meilleur candidat pour le porter, c'est Jean-Luc Mélenchon, et donc les deux sont liés entre le programme et celui qui peut le porter. Et moi, je suis à peu près convaincu, c'est pour ça que demain, samedi, nous allons à cette réunion, c'est que parmi les autres forces à gauche, et parmi surtout leurs électeurs, beaucoup peuvent être tentés de nous appuyer et de nous permettre d'aller au deuxième tour, plus qu'un candidat, on va dire, social-libéral pur sucre, qui, à mon avis, aujourd'hui en France, est une ligne très minoritaire. Donc c'est un peu le pari que nous faisons.
Merci beaucoup. On va observer, messieurs, une courte pause et puis on va se retrouver dans un instant pour poursuivre évidemment notre débat sur les chances de la gauche française d'aller unie à la présidentielle de l'année prochaine.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Quelles sont les chances pour la gauche française de présenter un candidat commun à la présidentielle de 2022? C'est le thème de notre débat du jour avec Abel Mbouy, président de la plateforme citoyenne Force Républicaine, tous uniques, tous unis, plateforme citoyenne apolitique, Frédéric Sinclair, politologue, Jean-Yves Camus, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Et je voudrais vous signaler, messieurs, que Éric Coquerel a dû s'excuser parce qu'il avait une autre urgence, il avait un engagement, notre engagement à 18h30 pour une émission sur une autre chaîne. Donc nous allons poursuivre tous les trois et je m'adresse à vous, monsieur Camus. Quelle est, d'après vous, aujourd'hui, la démarche la moins périlleuse à suivre pour aller le plus vite possible à cette unité alors que 2022, c'est presque demain?
Je suis pas sûr qu'il faille se prêcher. Parce que la vraie question, Éric Coquerel le disait avant de quitter l'antenne, c'est effectivement de savoir derrière qui on se rassemble, mais c'est quand même de savoir avant tout sur quoi on se rassemble. Il y a chez les Français, et le taux d'abstention en témoigne, une réelle lassitude des jeux d'appareil et des égos surdimensionnés qui promettent la résolution quasi immédiate de tous les problèmes du pays une fois qu'ils sont arrivés aux affaires. Et à gauche, il y a un vrai travail, au-delà de la désignation de tel ou tel, qui est indispensable pour sortir de ce que j'hésite pas à qualifier quand même de marasme. C'est une refondation idéologique. Alors, je sais bien que idéologique, par les temps qui courent, c'est un terme qu'il ne fait pas bon employer, mais enfin, c'est tout de même indispensable. C'est tout de même indispensable, et ça requiert de se mettre autour d'une table, non seulement pour savoir quel va être le candidat pour lequel on va voter, mais de savoir tout simplement quel programme on va présenter aux Français. C'est un gigantesque chantier. Il ne va pas être résolu dans les semaines qui viennent, et il sera...
Mais il faut commencer bien par quelque part, non ?
Oui, mais il faut bien commencer par quelque part. Mais vous avez un certain nombre de personnalités qui ne se déclareront pas avant l'automne. Anne Hidalgo a dit, par exemple, qu'elle ne se déterminerait qu'à l'automne. Donc, avant l'automne, très honnêtement, je pense d'abord que les Français ont la tête à autre chose. La résolution de la crise sanitaire, la sortie de la crise sanitaire. Et puis, lorsqu'on en sera sorti, c'est-à-dire possiblement après une vaccination généralisée courant de l'été, a dit Emmanuel Macron, c'est nommé au 21 septembre, là, on aura véritablement la tête et puis aussi, j'allais dire, la possibilité peut-être plus simple de véritablement rentrer dans des discussions de fond. Parce que si c'est pour se perdre, encore une fois, derrière, moi je suis le meilleur, non, moi je suis un petit peu en avant dans les sondages, je pense qu'on va à la catastrophe.
Merci.
Ce type de question, d'ailleurs, il n'y a que la gauche qui se le pose. Hein. La droite ne se le pose pas de la même manière.
D'accord. Frédéric Sinclair, justement, deux questions fondamentales qu'il faut répondre pour aller véritablement vers cette unité. Sur quoi on se rassemble, disait M. Camus, et derrière qui on se rassemble? Par où faut-il commencer? Quelles sont, par étapes, qu'est-ce qu'il faut d'abord régler? s'entendent sur le programme ou sur l'homme qui va porter la candidature de la gauche ?
Comme je vous disais tout à l'heure, je pense que les militants de gauche ont un réel attachement à la définition commune du programme. On le voit par exemple actuellement chez les Verts. La démarche de Yannick Jadot d'initier cette discussion alors qu'il y a des primaires qui sont prévues pose un réel problème. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le patron s'émancipe de sa base, qu'il prend des initiatives que la base ne partage pas. Et donc,
d'ailleurs, certains militants des Verts se sont désolidarisés de cette prise d'opposition, de cette déclaration.
Et c'est inévitable. Et si demain, on devait marcher vers un programme commun et un candidat commun, vous mentionniez tout à l'heure, à juste titre, Jean-Luc Mélenchon, qui est le mieux placé, ça voudrait dire une crise qui pourrait fracturer EELV à un an des... À un an des échéances, c'est absolument impensable. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que la prochaine rencontre va être une prise de contact. Yves Camus le disait, il ne faut pas se presser, et les responsables politiques le savent, donc ils ne vont pas se presser. Ils ne veulent pas laisser planer le spectre de la division. On se rappelle du mal qu'avait fait la candidature Hamon-Mélenchon en 2017 et l'impact sur finalement un peuple de gauche qui avait à peu près le même niveau de sympathie pour les deux candidats, même s'ils n'avaient pas forcément la même envie de électorale pour les deux, mais en tout cas, ils pensaient que c'était des candidats qui pouvaient s'entendre, et le fait que Hamon et Mélenchon ne puissent pas s'entendre, ça avait divisé. Et puis si vous ajoutez les scores qui étaient à peu près de 6% et de 20%, ben on a 26%, on avait les deux en tête devant Emmanuel Macron. Donc le spectre de la division à gauche est un spectre mortifère. Et donc, aujourd'hui, il y a une vraie question qui se pose.
Pourquoi n'arrive-t-il pas comment n'arrive-t-il pas à surmonter ces divisions ? Pourquoi il y a cet égo excessif qu'on semble ressentir chez les leaders de la gauche, alors que tous savent que, dans ces conditions, ils vont tous droit dans le mur ?
Oui, l'histoire. L'histoire partisane et l'histoire politique. C'est déterminant. Je veux dire, le PS, par exemple, avant la déchéance qu'il a connue post-Hollande, a été historiquement le premier, alors SFIO et le PS, SFIO et PS, a été historiquement le premier parti de France pendant assez longtemps, à des degrés divers. Donc c'est un grand parti, et historiquement c'était le parti de gouvernement, et même s'il a eu besoin sous François Mitterrand d'alliance pour parvenir au pouvoir, depuis cette époque-là il était majoritaire. Et donc fondamentalement s'abstraire, revenir de ça, renoncer à ce qu'on a été hier, c'est extrêmement difficile, hein. Regardez, vous faites de la course à pied à 20 ans, vous vous arrêtez pendant 10 ans, vous vous y remettez, et vous partez à 30 ans ou à 40 en vous disant je vais repartir sur mes mêmes bases, et puis vous vous rendez compte que là, j'ai dedans, ça ne marche plus. Et bien, le PS, c'est pareil, la partie politique, c'est exactement la même chose. Ensuite, vous avez des ancrages idéologiques qui sont extrêmement forts. Et c'est pour ça qu'un NPA, par exemple, porte Poutou à la présidentielle, que la lutte ouvrière porte Nathalie Arthaud, parce qu'ils ont des ancrages idéologiques très très forts qu'ils ne veulent pas partager. Arthaud préfère faire 0,6% en étant seul à la présidentielle, plutôt que de s'allier avec Jean-Luc Mélenchon. Les seules alliances à peu près automatiques qu'on a eues jusqu'à aujourd'hui, c'était le PCF et
qui compte aussi présenter son candidat et qui ne souhaite plus soutenir Jean-Luc Mélenchon.
Exactement. Je pense que c'est pas acté encore, hein, parce qu'il y a encore des échéances pour le PCF. Mais en revanche, ce qui est acté, c'est de dire on ne va pas donner de blanc-seing à Jean-Luc Mélenchon cette fois-ci, parce qu'on pense qu'il y a des accords à passer avant. Et donc, on fait mine de présenter quelqu'un pour pouvoir ensuite engager les tractations.
Merci. Abel Mbouyi, on voit donc que il semble que la perspective de ce candidat commun s'éloigne de plus en plus quand on voit l'ampleur des préalables à régler pour y arriver.
Bien entendu. Et puis le fait qu'en réalité, Jean-Luc Mélenchon se déclare candidat aussitôt, en laissant entendre que sa candidature était non négociable, je dirais que c'est un véritable coup de poker qui peut se transformer comme un véritable piège pour la gauche. J'espère que pour Jean-Luc Mélenchon que pour lui, la gauche pourra s'unir derrière lui. Mais aujourd'hui, c'est pas gagné. À titre personnel, je n'y crois pas. Il eût été plus intéressant, comme ça a été dit tout à l'heure, qu'un travail en profondeur puisse se faire sur un programme commun. Aujourd'hui, vous avez un peuple qui se sent perdu vis-à-vis de son amour pour la politique, même s'il y a toujours des personnes qui sont attachées de façon historique à des partis, mais il y a un désamour grandissant depuis un certain nombre d'années déjà. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le premier parti de France aujourd'hui, c'est l'abstention. Vous rajoutez le fait, comme ça a été dit encore une fois tout à l'heure, que matin, midi, soir, beaucoup de médias ne cessent de nous dire que au deuxième tour, le scénario le plus probable, c'est Marine Le Pen face Macron. À Emmanuel Macron, s'appuyant sur des sondages sur les uns, s'appuyant sur des convictions personnelles sur les autres, ça crée un désamour, et notamment vis-à-vis de la jeunesse. Il faut se dire que vous avez une partie de la jeunesse, effectivement, qui a eu un réveil pour la cause écologique, mais vous avez une autre partie, notamment la jeunesse dite des quartiers prioritaires ou populaires, qui sont très nombreux, qui sont une véritable force vive pour la nation, qui n'arrive plus à s'y retrouver, et qui même, pour certains, ont une sorte de désillusion vis-à-vis de la gauche qui pendant 30 ou 40 ans les ont appâtés avec des sujets antiracistes ou autres plus par ambition politique que par véritable volonté de régler des situations qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Donc il faut réunir un peuple issu de n'importe quelle de n'importe quelle sensibilité, à la limite c'est pas le plus important, mais la vision, le cap doit être donné autour d'un programme commun et non pas autour d'une personnalité, parce qu'on retomberait dans des erreurs politiques du passé et on retomberait aussi dans ce qui a tué la droite in fine.
Merci. Monsieur Camus, les déboires de la gauche qui s'accumulent, notamment au sein du Parti Socialiste, des querelles intestines, mais on parle aussi de cette dette colossale du Parti Socialiste qui pourrait même menacer une candidature de ce parti. On établissait au début de la campagne 2017 son découvert bancaire à 17,8 millions d'euros. Même la vente du siège n'a pas, semble-t-il, permis l'équilibre financier de ce parti.
Écoutez, vous m'interrogez là sur un sujet qui est un peu en dehors de mes compétences. De toute façon, je suis persuadé honnêtement.
On essaye d'analyser les éléments, les faits que nous avons sous les bras.
Moi, je suis un spécialiste de l'histoire des idées, les questions de trésorerie. Me semble pouvoir être résolu par la question de l'emprunt. Vous savez, les partis politiques empruntent, ils ont un financement assuré par l'État qui est assis sur leurs résultats électoraux.
Lesquels résultats sont de plus en plus en baisse depuis 2017, d'où.
Oui, mais il y a encore une force au Parti Socialiste, ce qui est le maillage des élus locaux. Et ça importe beaucoup, d'ailleurs, pour les finances d'un parti politique. Le maillage des élus locaux, c'est ce qui assure une bonne partie, finalement, des ressources des partis politiques. Moi, ce qui me paraît, ce que je voudrais souligner, c'est qu'au fond, derrière toute cette histoire, il y a, à gauche, un rapport au pouvoir qui est, assez problématique. La gauche ne cesse de se poser la question de sa propre capacité à atteindre le second tour et à revenir au pouvoir. C'est comme si elle avait, je constate depuis 1981 finalement, c'est comme si elle avait une sorte d'autocensure à se dire qu'elle est légitime à exercer le pouvoir. C'est ce qui fait sa faiblesse, beaucoup plus que les histoires de sous. Parce qu'à droite, Emmanuel Macron.
Juste dire que les sous aussi, ça compte, parce qu'il faut les sous pour battre campagne, pour que le candidat puisse se déployer. Si le Parti Socialiste n'a pas d'argent et ne parvient pas à avoir.
Oui. Nous sommes entièrement d'accord. Mais encore une fois, je vous rappelle que Marine Le Pen est candidate d'un parti politique dont on nous explique régulièrement qu'il est criblé de dettes, qu'il a des emprunts à rembourser, qu'il est au bord de la faillite et que bientôt il va disparaître, et ça ne l'empêche absolument pas d'être toujours dans la course, et ça ne l'empêchera sans doute pas d'être présent au second tour. Donc attention, il y a des phénomènes qui sont bien plus profonds que ça, et j'insiste vraiment, puisqu'on est en train de parler de la gauche, sur le fait que la gauche a un problème de rapport au pouvoir, alors que la droite, qui connaît elle aussi des divisions, a une sorte de sentiment d'être toujours légitime à exercer ce pouvoir. Elle ne se pose pas la question de savoir si elle peut s'unir, si elle peut revenir, si elle peut gouverner. La gauche se pose encore cette question-là, et c'est un gros handicap au fond.
Merci beaucoup. Frédéric Sinclair, On parle évidemment de l'unité de la gauche, mais certains estiment que la gauche, vu là où elle en est aujourd'hui, même si elle parvenait à avoir un candidat commun, cela ne servirait à rien et qu'elle n'irait pas loin en 2022.
Alors, je ne serais peut-être pas aussi catégorique que ça, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une équation aujourd'hui, politique nationale, qui a tendance à fragiliser la gauche pour des raisons idéologiques, c'est-à-dire pour des raisons de conception de la, des enjeux politiques nécessaires pour le pays. La gauche, c'est quoi ? Aujourd'hui, c'est le peuple, mais la gauche, c'est historiquement le peuple dans sa version prolétarienne, c'est-à-dire le peuple qui n'a pas l'argent, le peuple qui souffre, le peuple des exclus. Aujourd'hui, ce peuple des exclus est fragmenté. Qui est-ce qui souffre le plus ? Un jeune de banlieue ou un fils d'agriculteur ? C'est pas la même gauche qui s'adresse aux deux, et elle s'adresse pas de la même façon à chacun. Ensuite, c'est le capital. Comment on s'oppose au capital ? Vous avez un Jean-Luc Mélenchon, par exemple, qui est extrêmement vindicatif contre l'Union européenne et son néolibéralisme, mais par contre qui est prêt
Monsieur
à faire Sinclair,
alliance. Je suis très sincèrement désolé. On va vous donner la parole dans quelques petites minutes et vous allez poursuivre vos propos sur Jean-Luc Mélenchon.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et avec nos trois invités, Abel Mbouyi, président de la plateforme citoyenne Force Républicaine, tous uniques, tous unis, Frédéric Sinclair, politologue, Jean-Yves Camus, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès. Et je vous redonne la parole, Monsieur Sinclair, pour terminer vos propos. Vous parliez de Jean-Luc Mélenchon, qui serait très vindicatif
vis-à-vis de l'Europe, et qui, à l'inverse, est prêt... Alors, vis-à-vis de l'Europe et de son néolibéralisme, mais qui, à l'inverse, est prêt à entrer dans des alliances type Mercosur, donc de libre-échange avec l'Amérique du Sud, parce qu'il a des accointances idéologiques plus fortes avec les leaders sud-américains. Donc, il y a quelque part un message qui peut apparaître incohérent. La troisième dimension, c'est la dimension écologique. Là, encore une fois, on remarque, s'il y a alliance ELV, LFI, PS, que les maires écolos qui ont émergé lors des dernières municipales ont émergé dans les grandes villes, Bordeaux, Strasbourg, Lyon. Est-ce que réellement les gens des campagnes, ceux qui subissent la fracture territoriale, ceux qui sont qui subissent la pose massive de d'éoliennes et qui voient les paysages déstructurés, ceux qui ont besoin aussi d'aide, votent écolo? Absolument pas. Qui vote écolo? Eh ben, c'est l'électorat d'Emmanuel Macron, c'est l'électorat bobo.
Mais quand vous entendez, quand on écoute votre analyse, Monsieur Sinclair, cela signifie que la difficulté de la gauche ne sera pas forcément le choix d'un candidat commun, mais c'est surtout aussi de se mettre d'accord ou de trouver les points de convergence sur leurs programmes respectifs.
Exactement, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que la question du programme est centrale, et la question du peuple à qui on parle. À qui on parle quand les Verts parlent dans les villes à leurs électeurs? Aujourd'hui, les électeurs, je vous dis, c'est ceux qui ont voté plutôt de gauche libérale et qui ont besoin, parce qu'ils sont dans un environnement très urbain, qui ont besoin d'ouvrir la porte à une écologie. Donc c'est pas du tout un électorat qui peut se transposer du niveau municipal au niveau national et sur lequel la ELV pourrait compter. Enfin, il y a une dernière, je termine avec ça, il y a une dernière dynamique qui est fondamentale, c'est, et qu'il faut regarder absolument de très près, c'est la dynamique Marine Le Pen.
Merci.
Parce que Marine Le Pen partage un électorat avec cette gauche-là, un électorat anticapitaliste. Elle parle de localisme, elle parle d'écologie, elle parle d'aider les agriculteurs, elle parle d'aider les personnes qui subissent cette fracture territoriale, et par contre, elle ne fait pas de différence au moment où elle parle de frontières entre les flux de marchandises et de capitaux et les flux d'individus. Et donc,
merci.
Globalement, il y a là aussi une incohérence, c'est-à-dire au niveau de la gauche, c'est-à-dire comment est-ce qu'on traite la question de l'immigration. Et là, encore une fois, on n'arrive pas à s'accorder. Il va vraiment falloir que le socle idéologique soit extrêmement bien ficelé.
Merci. Monsieur Camus, beaucoup de déclarations, je disais en début d'émission, de bonnes intentions, mais pas de stratégie claire et pas de volonté manifeste pour aller vers cette candidature commune. Cela veut dire qu'on va à nouveau vers le mur en 2022 avec le Parti Socialiste ?
Est-ce que la gauche va dans le mur à la présidentielle de 2022 ? Moi, je ne suis pas persuadé qu'elle ne puisse pas encore limiter la casse. Vous allez me dire, l'important, c'est d'être élu. Certes, mais il y a un travail de fond au-delà de 2022. Ce ne sera peut-être pas pour ce coup-là, mais il faut quand même rappeler que la victoire de 1981, elle est arrivée après un très long travail et une traversée du désert qui était quand même assez spectaculaire. Donc, moi, personnellement, ce que je regarde, c'est le long terme. Si jamais la gauche arrive au second tour de cette présidentielle de 2022, j'en serais ravi.
Vous y croyez ? Au-delà, avec ou sans candidat commun ?
Écoutez,
ou faut-il passer forcément par un candidat commun pour espérer être au second tour ?
Non, pas nécessairement. Il y a aussi la question des reports de voix. Et puis, qui est-ce qui, un an avant l'élection de 2017, prédisait qu'Emmanuel Macron deviendrait président de la République ? Honnêtement, à cette époque-là, à la même époque, avant 2017, Alain Juppé était donné comme quasi certain d'être élu. François Fillon n'avait pas encore été rattrapé par ses histoires costumières. Et Emmanuel Macron sortait nulle part. Donc, on a un paysage politique qui peut encore largement bouger en un an, surtout dans le contexte particulièrement compliqué dans lequel nous sommes avec la crise sanitaire.
Abel Mbouyi, même analyse, une surprise peut-être en 2022 pour le Parti Socialiste ?
Oui, bien sûr. Et puis
que tous les sondages donnent perdant au second tour.
Et puis même pour la gauche de façon globale, de toute façon je pense qu'autour de la table, même si nous sommes tous à distance, je pense que personne n'est assez naïf pour croire qu'il n'y aura qu'un seul candidat à gauche au premier tour. Je pense qu'on repartira vers une multiplicité des candidatures, tout va se jouer au niveau des reports de voix, des éventuelles discussions en off qu'il va y avoir entre les candidats. Mais c'est vrai qu'il y a des défis très importants, c'est-à-dire que parmi les abstentionnistes, il y a vraiment un vivier électoral très important, qui est composé pour beaucoup des jeunes et des classes populaires qui manifestent une exaspération très prononcée de participer à un système qui ne prend jamais en compte leurs aspirations. En tout cas, c'est le ressenti qui est exprimé et qui se manifeste par l'abstention. Et comme ça a été dit tout à l'heure, la gauche a intérêt à travailler sur le long terme. Le fait de restaurer la stature présidentielle, il n'y a eu que deux présidents de gauche sous la Ve République. Il est très important dans ce programme qui doit être mis en commun et qui doit être construit, de pouvoir définir une vision pour la France des 30, 40, voire 50 prochaines années, parce que l'impression que l'on peut avoir, mais ce défaut n'est pas inhérent qu'à la gauche, c'est qu'avec ces guéguerres d'ego, on a l'impression, en tout cas pour la population, qu'on a affaire à des personnes qui veulent avoir accédé au pouvoir, mais qui n'ont pas forcément de vision pour la France sur le long terme. Et on l'a vu avec François Hollande, il a été élu, il a incarné un espoir de gauche, et on l'a critiqué en lui reprochant de faire une politique de droite avec notamment un Premier ministre étiqueté de gauche mais considéré comme de droite qui s'appelait Manuel Valls. Donc vous voyez que par rapport à la population, il y a vraiment l'aspect du programme. C'est vrai que ça a beaucoup été dit pendant l'émission, mais le programme, le projet pour incarner une vision pour la France.
Frédéric Sinclair, est-ce qu'il ne manque pas aussi un leader pour porter cette aspiration exprimée par toute la gauche ?
Oui, incontestablement, la gauche est faible de ses fracturations, mais si elle se fracture, c'est aussi parce qu'elle est faible, c'est-à-dire qu'elle laisse potentiellement la place à toutes les individualités. Elle laisse penser à chacun, à une Anne Hidalgo, à une Sandrine Rousseau, à un Éric Piolle, qu'il est possible, finalement, de l'emporter et d'exister et de prendre le... Vous voyez, si on avait un leader qui soit incontestable, qui porte un projet, qui réponde finalement aux attentes de l'opinion, la question ne se poserait pas comme ça. Cette multiplicité des candidatures à gauche montre aussi l'incapacité de faire émerger pas seulement un homme ou une femme, mais une pensée. On n'a plus de pensée de gauche, le socialisme est essoufflé Et la population sent bien, et c'est pour ça que les reports...
Mais excusez-moi, quand vous dites que le socialisme est essoufflé, est-ce que c'est tout à fait exact, puisque on a, vous-même vous avez dit, enfin certains d'entre vous ont dit au cours de l'émission, qu'il y a un vrai électorat de gauche qui ne demande que l'union pour pouvoir revenir et voter pour un leader de la gauche. Donc il y a un électorat, le problème ce sont ces leaders.
Ces leaders et cette parole, c'est-à-dire qu'il faut que la parole de gauche retrouve un souffle, et j'ai l'impression qu'il y a une asphyxie réellement de la doctrine socialiste qui ne parvient pas à se renouveler, ou alors qui s'enfonce dans des impasses. Elle n'arrive pas à régler la question du rapport au capital, du rapport à la technique, du rapport à la mondialisation, du rapport à l'immigration, du rapport au communautarisme. Il y a tout un tas. Et alors maintenant, on a en plus toutes les questions indigénistes et colonialistes qui viennent perturber le débat et fracturer encore et la gauche et la droite. Et donc finalement, on se rend bien compte que ces questions extrêmement complexes nécessitent une pensée forte, et cette pensée forte, je ne la vois pas émerger.
Merci. Jean-Yves Camus, en deux mots, donc, cette union, c'est une utopie ? Projet utopique ?
Cette union, elle finira bien, de toute façon, par voir quelqu'un émerger qui prendra le lead dans les sondages. À ce moment-là, la vraie question, ce sera de savoir qui continue l'aventure jusqu'au bout. Simplement pour témoigner, simplement pour exister, et puis qui décidera, ça demande une certaine abnégation, mais la politique c'est aussi ça, de se placer dans le sillage de celui qui a les meilleures chances de faire le meilleur score à l'issue du premier tour.
Abem Boye, conclusion, vous aussi, vous pensez qu'on pourrait assister à un renversement de situation d'ici là ?
À un an de l'élection, tout peut se passer. André Malraux disait qu'il n'y a pas de héros sans auditoire. Peut-être qu'il est temps qu'à gauche, le héros ne soit plus forcément incarné par une personne, mais par un projet et une vision forte pour la France.
Merci beaucoup, messieurs, d'avoir pris part à ce débat sur la gauche française en péril qui cherche à présenter un candidat commun à la présidentielle de l'année prochaine. Est-ce qu'elle va y arriver ? Nous en débattions ce soir avec Éric Coquerel, député de la France insoumise, Abel Mbouy, président de la plateforme citoyenne Force républicaine, Tous uniques, tous unis, plateforme citoyenne à politique, Frédéric Sinclair, politologue, et Jean-Yves Camus, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation. Jean Jaurès, merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez cette émission en rediffusion à 23h sur Africa Radio, 23h évidemment, heure de Paris. Merci à Hugo Vallière et à Edouard Ning qui m'ont aidé à vous proposer cette émission. Et à demain, nous allons parler du Burkina Faso avec le procès Compaoré dans l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara. Bonsoir.